Chers frères et sœurs, pour venir jusqu'à la chapelle, vous avez dû faire un petit détour. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais avant, on passait au milieu des ruines. Maintenant, il y a des panneaux qui vous disent « Attention, c'est très dangereux, il faut faire un détour. Pourquoi ?» Eh bien, parce que c'est des ruines. Et que la tendance des ruines, c'est de tomber en ruine, justement. Et ça n'a pas manqué il y a quelque temps. La providence a été bonne. Il y a un moellon de pierre qui est tombé de 70 kilos. Et il vaut mieux pas être dessous quand ça se passe. Alors ça n'a l'air de rien, cette petite affaire-là. Enfin, ça a l'air de rien. Puis il y aura des conséquences assez graves, on est d'accord. Mais cela est le signe, c'est le symptôme d'une des grandes lois de notre univers, la désagrégation. Et les choses se désorganisent, se désagrègent avec le temps. Les physiciens disent que c'est cette grande loi de l'entropie, cette loi finalement de la mort, qui fait que les choses se décomposent. C'est tout à fait juste, il n'y a qu'à poser les regards autour de soi et nous serons confirmés dans cette opinion. Mais il y a une grande énigme aussi pour les scientifiques. C'est qu'à mesure que le monde avance, il y a aussi comme une très puissante force d'organisation. Plus nous avançons dans l'histoire du vivant, plus nous voyons que les formes sont complexes. De l'unicellulaire aux êtres aquatiques, aux vertébrés, pour aller jusqu'à l'homme et au surgissement de l'esprit. Quelque chose a conduit vers ce surgissement de l'esprit. Vous voyez, chers frères et sœurs, ce qui est vrai à propos de l'histoire du vivant, c'est vrai aussi à propos de l'histoire de l'humanité. Si on regarde l'histoire de l'humanité, c'est un vrai capharnaüm, c'est un chaos perpétuel. Ce sont des empires qui se détruisent les uns les autres. Un empire plus faible laisse la place à un autre, mais au milieu de tout ça, des ruines, des destructions. Hier, nous étions à Noyon, une ville détruite à 80% après la Première Guerre mondiale. Et si nous voyons l'histoire biblique, c'est la même chose. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que notre foi nous dit que ce mouvement vers la mort, ce n'est pas le seul qui anime l'histoire. Et l'Écriture a cette très belle image de la souche. Alors quand j'étais dans les Alpes-Maritimes, lors d'un de mes étés où je passe mes vacances là-bas, j'ai dû participer à l'extinction d'un incendie. Il y en a beaucoup, malheureusement, et de plus en plus, on le sait bien. Mais ce qui est très frappant, c'est que le feu passe, détruit. Mais parfois, un arbre plus robuste, notamment les oliviers, résiste. Et l'année d'après, envoie des surgeons extrêmement vivaces. C'est l'image que prend Isaïe pour évoquer ces deux lois de l'histoire, cette loi de la destruction et cette loi du ressurgissement de la vie également. Voilà. Mais si nous sommes honnêtes avec nous, cette loi du surgissement de la vie, elle n'est pas du tout évidente. C'est quelque chose qui nous est caché. Et de quoi nous avons besoin pour lire l'histoire ? Avec ces termes-là, eh bien, nous avons besoin de ce grand décodeur qu'est l'Écriture. L'Écriture va nous permettre de lire l'histoire de l'humanité d'une autre façon. Je vous dis ce que dit saint Paul dans notre deuxième lecture. « Frères, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l'a été pour nous instruire afin que nous ayons l'espérance. » Eh oui, si nous regardons l'histoire du monde, nous sommes plongés dans la désespérance. Si nous nous laissons éduquer par l'Écriture, notre regard change et nous pouvons être dans l'espérance. Il y a une force dans l'histoire qui laisse sa marque. Dieu conduit tout cela et tout cela tend à faire en sorte que l'homme puisse un jour accueillir son Sauveur, son Messie. Il y a dans l'histoire une force qui nous fait espérer. C'est très bien, mais c'est un peu lointain l'histoire, hein, c'est un peu théorique tout ça. Mais nos vies, est-ce que c'est pas la même chose un peu, nos vies ? Nos vies, ben, elles sont entraînées vers la mort aussi. On le sait bien, on va un jour se décomposer. Notre être extérieur va vers la ruine, dit saint Paul. Le phénomène d'entropie qu'on a évoqué va s'appliquer à nous. Mais je me disais aussi, il y a quelque chose peut-être de plus grave encore. C'est que ce phénomène de déperdition, de désorganisation, est-ce qu'il ne s'applique pas aussi à notre vie morale ? Si je laisse aller, eh ben, je vais faire n'importe quoi. Je vais aller vers ma mort spirituelle. Je vais, comme dit très justement l'oraison, si je m'abandonne au péché. C'est-à-dire que si je n'y résiste pas, il aura barre sur moi et me conduira au néant. Voilà, il y a aussi comme une espèce de fleuve de boue qui peut m'entraîner. Comme justement dans les Alpes-Maritimes, il y a aussi ce torrent extrêmement puissant durant la tempête Alex qui a tout entraîné sur son passage, vous vous souvenez. Et j'ai vu là aussi les effets et les séquelles de ce terrible cataclysme. On appelle ça l'Alloud dans la cordillère des Andes, c'est ces fleuves de boue. Voilà, eh bien, moi je peux très bien me laisser entraîner par cela. Autrement dit, qui reste passif est entraîné vers le mal. Et j'aime cette belle devise d'un grand général durant la Deuxième Guerre mondiale, d'un grand maréchal même, ne pas subir, ne pas subir. S'abandonner à ses passions, s'abandonner à toutes les facilités, les malhonnêtetés que propose notre monde, et peut-être plus encore, le péché le plus grave, ce serait le péché par omission, ne rien faire. Le grand péché, disait une philosophe, c'est de ne pas vouloir. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Résister au péché, résister au mal, ça ne suffit pas et ce n'est pas très intéressant. Alors une autre image aussi pour me faire comprendre. J'ai eu la chance de faire un sommet dans les Alpes il y a quelque temps. Et le guide avec qui j'étais avait été employé par l'armée. Il habitait du côté de Chamonix. Et envoyé dans les montagnes de l'Everest pour tester le nouveau matériel de l'armée. Et là, il devait tester des parapentes et il se jetait des sommets de 7000 mètres en parapente. Et il disait, le plus important pour nous, c'était quoi ? C'était d'attraper la thermique. Qu'est-ce que c'est que la thermique ? La colonne d'air un peu plus chaud qui permet que le parapente puisse monter, qu'on puisse franchir les cols et ne pas s'écraser contre les parois. Eh bien, chers frères et sœurs, il ne suffit pas de résister. Dans notre vie spirituelle, il faut attraper les thermiques. C'est-à-dire cet élan de l'esprit qui nous pousse vers le haut et qui nous évite de nous écraser. C'est ça, la beauté de notre vie chrétienne. Choisir entre l'Alloud, entre le torrent boue et la thermique. Il faut s'abandonner, mais il faut choisir son abandon. Ce n'est pas n'importe quel abandon qui est bon. Alors ça nécessite une conversion. Vous voyez, ces gens qui viennent auprès de Jean, eh bien Jean va les baptiser dans l'eau, il va purifier leur cœur. Tu ne peux pas te plonger dans ce torrent de feu qui amène le Christ si auparavant tu n'es pas passé par l'eau, si tu n'as pas enlevé tous les obstacles, ou en tout cas un certain nombre, qui font que l'Esprit-Saint ne pourra pas te bouger parce que tu es trop paralysé par le péché. Alors oui, il faut passer par cette étape-là. Et puis, les paroles de Jean sont dures, mais il est bon que nous les entendions. Où en es-tu de ton orgueil, engeance de vipère, dit-il aux pharisiens. Où en es-tu de ta sensualité? Où en es-tu de ta paresse? Allez, enlève tous ces obstacles qui t'empêchent de te plonger dans le torrent de feu. Et puis, il est beau, frères et sœurs, que le baptême se passe dans un torrent, se passe dans un fleuve qui s'appelle le Jourdain, dont l'étymologie veut dire « ce qui descend, ce qui t'emporte ». Voilà. La conversion peut-être de notre avance est celle-ci. Cultiver ce regard de foi et d'espérance pour voir justement ce torrent de feu qui passe dans nos vies, qui passe dans le monde. Cultiver cette espérance qui est le propre des jeunes et nous, les adultes, à travers un regard lucide peut-être sur le monde, mais parfois tellement désabusé et tellement inquiet, nous pouvons abîmer leur espérance. Il faut que nous recevions d'eux cette faculté à voir le monde comme aussi mu par ses forces positives. C'est ce que nous allons demander à la Vierge Marie, plus jeune que le péché.